treasure, my little stranger, 'cause I feel you and you feel me. Give me the wave, my little DJ, 'cause you and me are on the way. In EAGJET FM, pour qui je suis honnête, écoute la barre, j'ai la fortune russe.
Barjorus 877, phénomène parallèle. Alors, diverses lectures ont éclos cette Barjorus. Mais bon, en attendant que je vous explique tout ça d'un peu plus près, petit café italien. Tu sais, le truc, je m'étais offert une petite cafetière, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle pour faire les cafés italiens, quoi. Une bialetti, eh oui, une bialetti. Et puis en fond sonore, on s'écoute Hal Blakey and Thelonious Monk, The Side Number 2, I Mean You, et puis Rhythm and Ink Purple Shades. Et voilà, le café est prêt, donc on éteint un feu, et on verse dans la tasse. Une belle tasse d'ailleurs, ouais. Non, mais bon, moi, je dresse des codes. Hein. Ah, attends. Le café, c'est pas n'importe quoi. Non. C'est un moment privilégié de boire son café. Donc, Barjorus numéro 877, phénomène parallèle. D'ailleurs, ce matin, à 5h, quand je me lève... Je me disais, fait chier tous ces disques, je les regardais, c'est tous devant moi. Non, il y en a beaucoup. Et alors qu'en ce moment, j'écoute plus que du classique, quoi. Voilà, ouais, je veux tout balancer. Et en plus, là, dans la maison où on avait avant, il y avait une grosse collection de musique classique, il y en avait plein. Mais tellement que j'ai pas pu les garder, quoi. Et je sais même pas, j'ai pas demandé à les garder, de toute façon. Mais il y en avait énormément. Et j'en ai déjà et tout, et je regrette un petit peu, mais bon. Et je me disais justement, c'est vrai que tous ces disques que j'ai, Led Zepp, les Rolling Stones, et tout le reste, quoi. Mais en fait, vous voyez, là on écoute du jazz, et je sais pas ce que je vais écouter dans la journée. Et puis même, j'écoute pas que du classique non plus. On s'en fout, hein. Ouais, moi je vais peut-être le couper, ça. Ouais, je vais le couper. Bon, en tout cas, Barjorus 877, phénomène parallèle. Donc, il m'est arrivé dans les coursives des archives d'une bibliothèque, Jacques Demy à Nantes, en réserve quoi. J'avais pénétré et enregistré les sons. Je voulais enregistrer les livres qui parlent. Les voix des livres sont impénétrables. Elles suggèrent des transferts. Leur enregistrement n'avait porté à rien d'autre que lorsque l'on regarde le ciel, lorsque l'attention à la réalité s'évanouit. Donc j'avais parcouru un livre qui s'appelait Parapsychologie de... Ah non, je sais pas où il est. Je sais, mais j'ai pas envie d'aller le chercher. Parapsychologie, quelque chose. Et de là-dedans, il parlait de la clairvoyance, de la télesthésie, de la télékinésie, et... surtout ça, ouais. De la télépathie. Et je lisais ça, et je me disais, ah ouais, c'est vrai que... Mais comment dire ça à la radio ? Par quel chemin passer pour dire que oui, ça existe à des degrés sur une des échelles différentes, mais qui justement amène au phénomène inouï, très généralement. Et donc je savais pas trop comment faire. Et puis il y avait justement un truc qui s'appelle le test du livre. Alors ça n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler maintenant. Un petit bout de café. Il est pas mal. Un peu serré. Mais bon, je vais. Il y a un truc par rapport au livre que moi j'ai vraiment vécu, que j'ai même mis en ligne. J'ai même écrit de nombreux textes là-dessus. Dont j'avais oublié. Et par exemple, vous voyez là, j'ai pris des notes. Télékinésie. Parce que, bon, alors voilà, je me rappelle de ce que j'avais écrit. Je prends le manuscrit. Je prends le manuscrit Dynamique du chaos, il s'appelle. Et là, il y a eu un moment de télékinésie. C'est-à-dire que par un. Tu vois, télékinésie, bon. Tu vois, genre. Tu vois une pomme qui est à 1 mètre ou 2 mètres de toi que tu peux pas atteindre. Eh bien, tu vas la faire venir à toi. Comme Luke Skywalker et son sabre laser. Tu sais, quand il est dans la neige, dans l'Empire contre-attaque. Pour couper le bras du Yeti. Tu vois, genre ça. Donc, bon, ça n'existe pas, je pense pas. Hein, mais en tout cas, mais là, la télékinésie, c'est-à-dire que j'ai ouvert, je savais ce que je voulais. J'ai ouvert le manuscrit. C'est tombé pile poil à la page que je recherchais. Sans savoir, hein. J'ai ouvert au hasard. Vrai, j'ai aucune raison de vous mentir. Si j'aurais des raisons de vous mentir pour le show, quoi, pour l'émission. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Je vous assure que j'ai ouvert le truc et c'est ouvert pile poil. Construction des rêves, annexe 1.7a, page 78. Je savais pas. Tu vois. Et même ce que je cherchais vraiment, c'est même pas dans ce manuscrit. C'est je sais pas où. C'est une feuille volante qui est quelque part dans toutes les archives là. Et donc ça, ouverture du manuscrit à l'emplacement du passage recherché. Ça, pour moi, c'est un je venais de le lire, de feuilleter le parapsychologie juste avant, quoi. Moi, c'est ça que j'appelle des signes. Bon, bah. Et donc avant maintenant de commencer la lecture de Construction des rêves, du chapitre, je vais rappeler un truc de télesthésie par rapport à la clairvoyance des lectures. J'en ai déjà parlé de nombreuses reprises dans mes barges russes. Lorsque, admettons, tu lis un livre, tu vas, et par contre c'est que de l'occasion hein, dont je vous parle, il n'y a pas de neuf. C'est pas des achats neufs, c'est des achats d'occasion. Donc tu tombes dessus parce que tu dois tomber dessus, parce qu'il faut que tu tombes dessus. Ça peut être un hasard, t'as envie de lire un truc. Des fois t'achètes un livre d'occasion, t'es pas dessus, mais tu sens qu'il faut que tu l'achètes. Donc tu vas l'acheter. Et là, ça aussi, c'est une télesthésie. Tu sens les choses. C'est une télépathie. Alors, clairvoyance des lectures, j'ai écrit télépathie dans la découverte d'auteurs et de livres. Et en fait, ça se suit. C'est qu'il y a une suite, tu vois, dans ce que tu peux rechercher ou non. Ça va t'emmener à des points. En fait, il faut vraiment se faire confiance. Tu vois un livre d'occasion, je sais pas, 2,80€, 3,50€, tu vas l'acheter. Et tu vois un autre livre, t'hésites entre deux livres. Bah, t'en achètes pas qu'un, t'achètes les deux. Parce que, c'est au feeling, quoi, hein. Donc, j'ai rien à dire de plus. Hein. Voilà. Maintenant, je vais vous lire Construction des rêves. Alors, c'est un peu long. Mais c'est pas mal. Alors, je vais en plus me faire plaisir de relire. Donc, Construction des rêves, c'est une annexe de La dynamique du chaos. Un manuscrit que j'ai envoyé à plein de maisons d'édition qui n'a jamais trouvé d'éditeur. Bon, ça ne m'étonne pas plus que ça. Donc, sur la même rangée que le discours d'Aragon sont les œuvres d'Antonin Artaud et ses biographies. Edgar repense au cours de Crochet. C'était un prof. Il prend celle dont la couverture lui parle le plus, puis retourne s'asseoir. Il pose Aragon, le surréaliste. Alors, en fait, il est dans une bibliothèque. Edgar. Et il pense au cours de crochet, son prof de fac. Il pose Aragon, le surréaliste, et s'intéresse un instant à la biographie d'Antonin Artaud. Il brasse les feuilles en faisant des pauses au titre des chapitres. Photos aux photos noires et blanches, surpixelisées, datant des années 1970. En fin de vie, selon le cours, Artaud a, en hôpital psychiatrique, construit un chantier verbal agglutinant. Un assemblage de morphèmes destiné à traduire la pensée de l'instant. Selon ce bouquin, dans l'avant-dernier chapitre, ce langage serait dédié à la création d'un langage méta-subjectif. Edgar dépose la biographie entrouverte et replonge avec empressement dans les angles morts. Il le divise en deux. Au niveau de la moitié, il lit au hasard de la double page pleine et sans paragraphe. C'est exactement ce que je viens de vous dire en plus. En train de lire un livre aux feuilles blanches sur un blanc, au bord d'une route départementale montagneuse, je marmonnais que c'était un amour inimaginable où nous ignorions juste comment s'aimer l'un l'autre. Je ferme les guillemets. En train de lire un livre, ça c'est le début des guillemets. Il glisse ses pouces, donc Edgar, et index des extrémités de ses lèvres vers son menton, les yeux égarés, pourtant en recherche de compréhension, et saute à la double page suivante. Donc je cite... Mon corps est dans le sien, immobile, prisonnier de phrases que j'eus écrites et desquelles je ne suis jamais sorti. Fin de citation. La littéra. Alors la littéra, je vous rappelle, c'est des lignes de mots que tu renifles en fait. Parce que renifler des lignes de mots, ceci me semble être mon plus beau poème. C'était un poème que j'ai lu, que j'avais écrit et que... Je me rappelle. La littéra, se dit Edgar, ne serait-elle pas en collaboration entre l'auteur et le lecteur inspiré par l'instant ? La littéra, se dit Edgar, ne serait-elle pas une collaboration entre l'auteur et le lecteur inspiré par l'instant ? Que même un homme seul puisse trouver un langage. Edgar suit des cours de philosophie du langage et pour un intérêt éloigné de ses recherches sur la littéra, il lit l'introduction d'un essai philosophique sur les maladies de la littérature par le professeur Beckenbauer. Alors ça, c'était mon prof... comment il s'appelait ? C'était prof à Nantes, Beckenbauer. Alors attends, son vrai nom, c'était... professeur... Philippe... Ah, j'ai interviewé, en plus. Oh. Il enseigne la littérature à Nantes. Beck ! C'est Beck ! Philippe Beck ! Hey ! Décrit comment est creusé le spleen. Edgar tourne une centaine de pages en avant afin de lire la table des matières. Il brosse les titres de chapitres jusqu'au numéro 5, l'ivresse de la littéra. Le blanc de ses yeux s'écarte. Edgar commence directement sa lecture, page 56. Les définitions disparaissent. Alors là, je cite ce qu'il... La page à laquelle il ouvre, la page 56, apparemment. Les définitions disparaissent et une surdose de littéra fait entrer la lecture dans l'ivresse. Alors dans l'ivresse, écrit L-I-V-R-E-S-S-E. Vous savez, il y avait un bar qui s'appelait l'ivresse à Nantes, dans lequel j'avais fait une thèse du blues avec de la musique. Et donc, bah, je reprends ça. Un clin d'œil à ce bar qui a fermé maintenant, je crois. Ou qui, en tout cas, c'est plus le même proprio. Bon, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas été par là-bas. Et une surdose de littéra fait entrer la lecture dans l'ivresse. Cette maladie débute lors de lecture par des excès d'interposition de thèses et d'antithèses. Elle perd le lecteur dans sa propre conscience. Le lecteur devenu malade n'a donc plus aucun désir de comprendre et tourne les pages sans se soucier du sens du récit. Je rajouterai que le nombre des emplois possibles d'un mot par un individu est plus important que le nombre des mots dont il peut disposer, comme le dirait Paul Valéry. Les mots ont une définition, les utiliser comme la peinture ou la musique avec les yeux ou les oreilles ne convient pas à exprimer leur principe de communication. Leur sens évoque une intuition et leur son provoque une interprétation. L'écriture est une machine à construire le langage. Une meute de mots au sens linéaire sert la syntaxe pendant que certains mots définissent la position du lecteur dans les atmosphères. Pour que le théorème de répétition raconte une histoire, la suite des mots doit transpirer un sens. Les coutumes se bouleversent, une révolution progresse. La littéra est la combustion du temps par les influences de l'instant, et à peine nous la vivons que nous la sentons se séparer de tout langage conventionnel. Alors là, il arrête de lire la page 56. À la page suivante est un bout de papier déchiré d'un bloc-notes. L'écriture ressemble à la typographie du vieux schnock avec des bavures. Alors le vieux schnock, c'était avant dans le livre, dans le manuscrit. On dirait un rêve qu'il raconte. Après avoir longé les trottoirs, la porte vitrée s'ouvrit automatiquement. Il n'y avait pas d'escalator, mais des marches avec des rampes de bois cirées menant à un étage sur pilotis. Les lumières électriques, aux couleurs d'un épais soleil, conduisaient jusqu'au train à destination d'Aurore et Crépuscule. Ah ouais, c'était classe le vieux schnock dans la gare, ouais. Sur l'étage superposé du hall de gare, se situaient des points de vente de tickets et de crédits de communication pour la dizaine de téléphones fixés sur une longue table et séparés par des vitrages doublés. Je devais le retrouver accroché à un combiné dans un de ces enclos avec un chapeau noir, un costume complet de feutre gris et un pardessus beige. Je commençais à monter les marches l'une après l'autre en déroulant le film de ma vie comme si la fin approchait et soudain commença à sonner un téléphone. Mon cœur se mit à battre, les muscles de mes jambes se compressèrent pour se ruer décrocher. Si pressé de pouvoir lui parler qu'il me sembla que le combiné vint à moi. Entre mon oreille et mes lèvres, allô ? Et je m'arrête là. Ah, si vous voulez la suite, il faut racheter le manuscrit qui n'a jamais été édité. Hein ? Bah oui. C'est con. Bah ouais, c'est con. Voilà, ça c'est pour vous dire par rapport à la... pour appuyer la clairvoyance. Que je cherchais je cherchais ce passage dans mon manuscrit. Je prends le manuscrit, j'ouvre et je tombe dessus. C'était... alors, à la fois un coup de hasard, à la fois un coup de chance, à la fois le destin, à la fois mon dessin pour vous le partager. Je suis très content de ça. En tout cas, maintenant, on va s'écouter The Magic City par Sun Ra. Et Magic City dans le sens, justement, ville parallèle, quoi. On dit monde parallèle, mais... il y a tellement de monde qu'on va se rétrécir aux villes parallèles en parlant de la littérature. Thank you. On va toujours parler de la construction des rêves. Pas du chapitre, donc, enfin, du passage que je vous ai lu, mais plutôt de ce qui va peut-être différencier les hommes, les êtres humains, pardon, entre eux. Je faisais, dans la barre juste d'hier, précédente, c'était le jour de Noël apparemment. Là, aujourd'hui, on est au mois de novembre, mais on est le 30... Non, on est le 1er décembre aujourd'hui. Mais bon, je fais ça longtemps à l'avance. Je parlais justement de si les animaux sont des personnes, un peu en reprenant Condillac, c'est pas ce qu'il dit, mais il dit pas le contraire en tout cas, eh bien, il y a aussi, faut savoir qu'il y a différentes sortes de personnes, déjà, entre humains. Et les chiens, c'est pareil. Et je me disais ce matin, en promenant le mien, en prenant mon chien, je me disais, mais ça dépend de l'éducation. De ton chien ou de ton animal. Parce que si je pensais aux chiens qui étaient dressés, ils sont intelligents, tu vois, mais c'est dès le début que tout le monde est intelligent, en fait. C'est ça, c'est qu'il faut le dresser, il faut l'éduquer pour qu'il développe cette intelligence. Voilà, donc maintenant je vais vous lire, donc c'est toujours Condillac, mais cette fois c'est Essai sur l'origine des connaissances humaines, donc c'est aux éditions Vrin, page 32. Alors, tous les hommes ne peuvent pas lier leurs idées avec une égale force, ni dans une égale quantité. Voilà pourquoi l'imagination et la mémoire ne les servent pas tous également. Cette puissance vient de la différente conformation des organes, ou peut-être encore de la nature de l'âme. Je remarquais seulement que les organes ne sont quelquefois peu propres à la liaison des idées, que pour n'avoir pas été assez exercé. Ça reprend, c'est ce que je viens de vous expliquer. Pas, voilà, ça relève un petit peu de l'éducation, ou du dressage, enfin, ça dépend ce que c'est. Quoi. Le pouvoir de lier nos idées à ses inconvénients, comme ses avantages, pour les faire apercevoir sensiblement, je suppose deux hommes. L'un chez qui les idées n'ont jamais pu se lier, l'autre chez qui elles se lient. Avec tant de facilité et tant de force qu'il n'est plus le maître de les séparer. Le premier se roit sans imagination et sans mémoire et n'en roit par conséquent l'exercice d'aucune des opérations que celles-ci doivent produire. Il se roit absolument incapable de réflexion. Ce se roit un imbécile. Le second au roit trop de mémoire et trop d'imagination et cet excès produit roit presque le même effet qu'une entière privation de l'une et de l'autre. Il roie à peine l'exercice de sa réflexion, il se roie un fou. Les idées les plus disparates étant fortement liées dans son esprit, par la seule raison qu'elles se sont présentées ensemble, il les juge roi naturellement liées entre elles et les met roi les unes à la suite des autres comme de justes conséquences. Voilà. Je ne peux pas dire de plus. Hein. C'est sûr que au niveau des organes, il y aura certaines personnes qui auront des facilités d'accumuler, de lier différents trucs entre eux. D'autres auront moins cette faculté. Voilà, c'est ce qui est dit. Et je ne sais pas si vous avez fait attention et si vous allez me croire, mais au même moment quand je terminais l'émission, les derniers mots que je vous ai dit avant le passage dimensionnel, c'était la fin du disque. Mais au même moment. Et donc là, la liaison des idées avait une concordance entre le disque qui se termine, l'émission qui se termine, tout ceci, selon moi, mon point de vue, mes points de vue, reliés par le côté invisible. Dans le côté invisible, peut-être que j'ai télékinésiquement, par télékinésie, j'ai dit, bon, l'émission se termine, donc toi le 10, tu vas te terminer. Non, c'est pas si simple que ça. Mais... Bon.
Je l'ai allumé après manger. À 14h, c'était la barge russe. Johnny est là en train de parler. Elle me fait de la guitare. De battre mon cœur s'est arrêté. Sur le lit, j'ai jeté mes disques. Tout contre elle qui est branchée. Ses harmonies m'ont rendu muet. Fatigué, je suis crevé. Toute la nuit j'ai écouté des émissions. Le silence, c'est tellement bon. Johnny Helmut, c'est sans contrefaçon.